J'ai tant besoin. Je chute dans l'abîme de mes peurs. Je bute sur la cime de mon cœur. Mes ailes se sont fanées. Tout est parti en fumée. L'étendue près de mes plumes se sont noyées dans la brume. Ramène-moi qui suis tombé dans mes offenses. J'ai plombé ma vie de mon péché. De ton ciel je suis détaché.
Seigneur. Ramène-nous vers toi, Seigneur, vers ta bonté, vers ton amour, Seigneur. Nous qui sommes tombés, qui avons fauté, qui avons péché devant toi, Seigneur. Nous venons devant toi nous agenouiller pour te demander de nous reprendre, Seigneur. Amen.
Tomber. Et après. L'histoire de ce matin, récit d'évangile, l'histoire de ce matin est surprenante, vous le verrez. Elle se déroule pendant le troisième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Quelques mots sur le contexte. Paul a traversé l'Asie mineure, il a séjourné en Macédoine, puis en Grèce, et le voilà sur le chemin du retour. Paul ne voyage pas seul, il a des compagnons de route, et certains de ses compagnons de route ont pris un peu d'avance. Et ils attendent l'apôtre Paul et le reste de la troupe, dont Luc, l'auteur du livre des Actes. Ils les attendent à Troas. Troas, c'est une cité portuaire au nord-ouest de l'Asie mineure. Et Paul les rejoint donc à Troas. Mais il prévoit de ne pas y rester trop longtemps, parce qu'il compte arriver à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Et le voyage est encore loin, entre Troas et Jérusalem. Donc, Paul est plutôt pressé. Mais, malgré le fait qu'il soit pressé, il a encore beaucoup de choses à transmettre aux chrétiens de la ville de Troas. Nous sommes juste la veille du départ de Paul de la ville. Nous sommes quelque part à Troas, un samedi soir, dans une grande maison, de plusieurs étages, où les chrétiens avaient l'habitude de se retrouver pour le culte. Voilà pour le contexte. Nous sommes à Troas, dans une grande maison, là où les chrétiens avaient l'habitude de se retrouver pour célébrer un culte. On dirait aujourd'hui que l'église de Troas est réunie pour le culte. Et puis, ce jour-là, l'église de Troas accueille un prédicateur exceptionnel. Parce que l'apôtre Paul est là en personne. Il est dans la place. Et on peut s'y attendre un peu. Avec l'apôtre Paul, ça devrait dépoter. Je vous invite à lire Acte 20, les versets 7 à 12. Acte 20, les versets 7 à 12. Le dimanche, nous étions réunis pour partager le pain. Et Paul parlait à l'assemblée. Comme il devait partir le lendemain, il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre où nous étions réunis, en haut de la maison. Un jeune homme appelé Eutyque était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Son sommeil était tel qu'il fut entraîné dans le vide et tomba du troisième étage. On le releva, mais il était mort. Paul descendit, se pencha sur lui, le prit dans ses bras et dit « Cessez de vous agiter, il est vivant ». Puis il remonta, partagea le pain et mangea. Après avoir parlé encore longtemps, jusqu'au lever du soleil, il partit. On ramena le jeune homme vivant et ce fut un grand réconfort pour tous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On pourrait se contenter d'une lecture de cette histoire au premier degré. Au cours d'une réunion des chrétiens de Troas, survient une tragédie lors d'un culte, mais Dieu, dans son immense bonté, vient au secours de son Église et rétablit le jeune homme après sa chute mortelle. Lecture au premier degré. Pour aller un peu plus loin, la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Pourquoi ce récit justifie-t-il sa place dans le bouillonnement du livre des Actes ? Le livre des Actes, c'est le livre de la vie des églises. Il y a 100 000 choses à raconter. Pourquoi ce récit ? Alors, il y a certes un miracle, mais il y en a eu tellement d'autres de miracles. Pourquoi est-ce qu'on vient raconter celui-ci précisément ? Est-ce que nous devrions voir dans ce récit une invitation à mieux sécuriser les lieux de culte ? Ou une mise en garde contre les prédications trop longues, soporifiques, des prédications qui peuvent se révéler plus dangereuses qu'on le pense. Même Paul a de la marge. Parce qu'on remarquera tout de même au passage que l'histoire, elle n'est pas trop à l'avantage de l'apôtre Paul. Certes, la réunion se prolonge tard dans la nuit, mais visiblement, sa prédication n'était pas assez passionnante pour tenir éveillé ses auditeurs. Eutyche est tombé de la fenêtre, mais qui nous dit qu'il était le seul à s'être endormi ? La question de la place de ce récit dans le livre des Actes, elle est aussi pertinente quand on considère la façon dont l'histoire est racontée. Car quand on y regarde de plus près, le récit tourne autour de ce jeune homme, tombé de la fenêtre, puis c'est bien étrange. On pourrait même se demander ce qui s'est vraiment passé. En effet, le texte nous dit que le jeune homme tombe du troisième étage de la maison, la chambre haute, et que lorsqu'on veut le relever, on se rend compte qu'il est mort. Ben mince alors. C'est une terrible tragédie. C'est affreux cette histoire. On imagine sans peine l'émoi que ça a pu susciter. Peut-être un vent de panique, une sorte de terreur qui s'empare de tout le monde, en tout cas de l'effroi. Imaginez un instant qu'un événement similaire arrive ce matin pendant notre culte. Quelqu'un qui meurt devant nous. Et pourtant, Ben, on lit ce récit, puis il y a tout qui semble se passer dans un calme olympien. C'est en tout cas comme ça que Luc nous rapporte l'événement. Le texte biblique dit simplement que Paul descend depuis la chambre haute, qui prend le jeune homme dans ses bras, puis qui dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il est vivant, verset 10. C'est tout. On peut imaginer beaucoup de choses, hein. Mais on ne dit pas que Paul ait fait quelque chose de particulier. On ne dit pas que Paul lui a imposé les mains. On ne dit même pas que Paul a prié pour la résurrection de Tyche. Franchement, même Jésus l'aurait fait. Mais ici, rien, rien. Il dit juste qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'il est vivant. Et puis, surtout, surtout, Paul remonte à l'étage, comme si de rien n'était. Puis il reprend exactement là où il s'est arrêté. Il partage le pain avec les disciples réunis qui semblent aussi être passés à autre chose. Et puis il prêche toute la nuit. Bref, le culte continue. Puis après ça, Paul s'en va. Et ce n'est qu'à la toute fin du récit, au petit matin, alors que Paul est parti, qu'on nous confirme que le garçon est bien vivant. Et alors tout le monde est consolé. C'est comme si Eutyche était resté toute la nuit au pied de la maison, continuant le sommeil qu'il avait commencé pendant la prédication de l'apôtre. Son réveil, il a quand même dû être un peu spécial, hein. Le retour à la réalité, brutal. Mais pas ça, assez étrange. Et comme si ça ne suffisait pas, moi il me semble qu'il y a encore d'autres éléments incongrus, ou au moins des questions sans réponse. Par exemple, pourquoi le jeune homme est-il assis sur le rebord de la fenêtre ? La chambre était pleine. Parce qu'il avait chaud, il cherchait un peu d'air. Ou est-ce qu'il n'était pas passionné par le discours de Paul, puis jetait un coup d'œil de temps en temps à l'extérieur ? Croyez pas, hein, je vous vois regarder par la fenêtre. Hein. Mais en fait, on ne sait rien. En fait, on ne sait rien de ce jeune homme, on ne sait rien de lui. Il ne parle jamais. Le texte n'émet absolument aucun jugement sur son attitude. Le texte ne commente pas ce qui lui arrive et on n'entendra plus jamais parler de lui dans la suite. Tout ce qu'on sait de lui, la seule chose qu'on sait de lui, c'est que c'était un jeune homme et c'est son nom. Eutychus, Eutyche, Eutyche. On pourrait se demander pourquoi le nom du gars est mentionné. Est-ce que c'est important de savoir comment il s'appelle ? Je crois que oui, dans l'agencement du récit. Vous savez ce que ça signifie, Eutyche ? Eutychus, Eutyche ? Chanceux. Chanceux. C'est quand même étonnant vu ce qui lui arrive, non ? Chanceux se casse la binette, il y laisse la peau et il ressuscite. Chanceux. Un autre élément étonnant, c'est la mention du partage du pain à cette heure tardive. Il ne s'agit pas ici de casser la croûte, mais de partager le repas du Seigneur, la scène. De ce temps-là, la scène, elle se vivait au cours d'un véritable repas chez les premiers chrétiens. Mais pas normalement à minuit, et encore moins alors qu'il y a un gars qui est mort au pied du bâtiment. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'autant d'éléments surprenants, ça doit nous interpeller. Ce sont peut-être des indicateurs pour nous dire qu'il ne faut pas passer trop vite sur un tel récit et qu'une lecture seulement au premier degré ne suffit pas. Alors, si ce récit, de façon bien étrange, avait une autre portée, est-ce qu'on pourrait voir dans ce récit une valeur de symbole ? Attention, hein, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Luc, l'auteur du livre des Actes, en parle en tant que témoin oculaire parmi d'autres. Le récit est à la première personne du pluriel. Il est témoin oculaire avec d'autres. Il y a sans doute bien eu un jeune homme qui s'est endormi, qui est tombé de la fenêtre et qui, à l'arrivée, s'en sort indemne. Mais ne doit-on pas aller plus loin que cette lecture au premier degré ? Alors, on a déjà mentionné le nom d'Eutyque, le chanceux, le calme étonnant dans lequel les choses se passent. On a mentionné le culte qui se poursuit comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le récit nous parle quand même d'une mort et d'une résurrection. Et en plus, on est le week-end, dans la nuit de samedi à dimanche. Et c'est au petit matin du dimanche que la résurrection est constatée. Et c'est à ce moment-là seulement, quand la résurrection est constatée, que tout le monde est soulagé, dit le texte. Le texte l'exprime même avec une certaine emphase. Tous sont vraiment consolés. C'est du grec de base. Tous sont vraiment consolés. Littéralement, on pourrait même traduire « et ce ne fut pas une petite consolation ». Ça vous rappelle rien, tout ça ? Une expérience de mort et de résurrection constaté au petit matin et qui devient une source de consolation sans réserve. D'une certaine manière, je crois que ce récit à Troas nous parle de l'expérience de mort et de résurrection que les croyants sont appelés à vivre à la suite de Jésus-Christ. Et cette expérience de mort et de résurrection, c'est une expérience qui est partagée dans la communauté chrétienne. Et c'est dans la communauté chrétienne qu'elle est source de profonde consolation. Quelques applications. Une expérience de mort et de résurrection. Une expérience de mort et de résurrection. Ça, c'est le cœur du cœur du cœur de l'Évangile. Une expérience de mort et de résurrection. C'est le cœur du cœur du cœur de l'expérience chrétienne. Tout le reste n'est que garniture. Peut-on aller jusqu'à dire que l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ, que cette expérience-là, devrait être la norme, la réalité de la vie chrétienne. Comme la résurrection du jeune Eutyque semble évidente et naturelle dans ce récit. Et pourtant, mes amis, nous nous contentons facilement d'une vie chrétienne morne. Comme un enfant qui joue au bord d'une flaque en ignorant que la mer existe. Une vie chrétienne morne, où on n'est pas vraiment, jamais, mort et ressuscité, mais juste un peu entre les deux. Bouf. Juste un peu assoupi dans un état cotonneux, hésitant, boitillant, entre gris clair et gris foncé. Je demande au Seigneur de permettre que notre vie chrétienne soit encore et toujours l'expérience nouvelle de la mort et de la résurrection. L'expérience normative de la mort et de la résurrection. Plus encore, lorsque justement nous sommes tombés, que nos voiles sont troués, que notre cœur est déchiré, que nous nous sommes rétamés, écrasés par nos fautes ou par les circonstances, mais que la vie ne nous laisse aucune chance. Plus encore, donc, lorsque nous sommes tombés, nous avons besoin d'être remis sur pied. Et quand nous tombons à cause de notre péché, notre rétablissement s'apparente à une résurrection. Rien de moins. Quand nous tombons à cause de notre péché et que nous sommes enserrés par les liens de la mort, notre rétablissement s'apparente à une résurrection. Rien de moins. Et à la vie nouvelle qui l'accompagne. Tout se passe dans ce récit lorsque l'Église est réunie. Tout se passe dans ce récit lorsque l'Évangile est prêché, même imparfaitement, puisque quelqu'un s'endort. Tout se passe dans ce récit lorsque la scène est célébrée. Il faut souligner l'importance de la vie de l'Église dans la vie du chrétien et de la chrétienne. Je ne parle pas des institutions, je ne parle pas des différentes chapelles, je parle de la communauté chrétienne, je parle du vivre ensemble, je parle de la communion, je parle du partage des joies et des peines, je parle de la normalité, pas des pointes de la vie, pas des concerts, pas des spectacles en église, juste des églises réunies pour la vie. La mort et la résurrection au Christ. C'est une expérience à partager. Il y a des espaces à investir, il y a des espaces à trouver, il y a des espaces à se réapproprier. Par exemple, la prière communautaire. Je sais, c'est le mardi soir de 20h15 à 21h30. Moi, j'ai de la peine à sortir à cette heure-là. Vraiment, je vous le dis, faut que je me sorte les pouces pour dire « Ok, on y va ». Et je suis à 3 minutes, hein. Mais je suis convaincu que les moments de prière communautaire, le mardi une fois par mois ou le dimanche avant le culte, à 9h30, il y a une petite équipe qui se retrouve en bas pour prier pour le culte. Ou des moments que vous prenez en semaine à 2 ou 3, ou les groupes de maison, ce sont des espaces à réinvestir pour partager notre expérience de la mort et de la résurrection. Bien sûr, le culte. Alors, je sais, on n'a pas tout le temps l'occasion de prier ensemble. Mais on essaye de se donner l'espace dans le culte pour prier ensemble. Il doit y avoir des espaces pour parler de nos morts et de nos résurrections. Et la parole de Dieu, prêchée et étudiée en communauté, permet d'appréhender la mort et la résurrection. Tout comme la participation à la scène. C'est un sacrement, la scène. Ça nous a été donné par Jésus pour son Église, pour proclamer sa mort et sa vie à chaque fois que nous nous retrouvons jusqu'au jour où il reviendra. C'est sacré la scène, même si c'est un peu de farine et un peu de jus de raisin fermenté, c'est sacré. Le christianisme, mes amis, le christianisme, ce n'est pas une religion à suivre. Mais c'est une famille à laquelle appartenir. C'est ça le christianisme. Pas une religion. Balancez-moi la religion, s'il vous plaît. Et faisons vivre la famille à laquelle nous appartenons. Et puis, il n'y a pas de plus grande consolation, dit notre texte. Il n'y a pas de plus grand encouragement. Il n'y a pas de plus forte espérance que la réalité de la mort et de la résurrection de Christ. Il n'y a rien qui n'arrive à ce niveau de pertinence. Parce que tout pointe vers la mort et la résurrection de Christ, parce que tout pointe vers notre mort et notre résurrection. Enlevez la déco. Et souvenons-nous que nous venons de la poussière et que nous retournerons à la poussière. C'était le sens cette semaine du mercredi des cendres. Il n'y a pas de plus grande consolation, pas de plus forte espérance que la réalité de la mort et de la résurrection de Christ. Dans l'histoire, bien sûr, parce que c'est par ce double événement que le salut de Dieu pour les humains s'est accompli. Mais aussi dans notre histoire à nous, dans notre vie chrétienne, évidemment, dans notre vie tout court, nous étions tombés. Je suis tombé, raide mort, par mes fautes. Et le Christ nous a rendus à la vie avec lui. Face à la mort, face à la maladie, face à la souffrance, face au doute, face à tout ce qui nous dépasse, face au cours de l'histoire qui nous semble s'accélérer sous nos yeux, nous sommes ressuscités en Christ. Et c'est notre consolation, et c'est notre espérance au-delà de toute épreuve. Contre les forces de mort qui nous entourent, contre les forces de mort qui nous pressent, contre les pulsions mortifères qui peuvent nous habiter parfois, nous sommes ressuscités en Christ et assis avec Christ dans les lieux célestes. Aussi sûr que vos derrières sont posées sur ces chaises ce matin, aussi sûr que ça, aussi sûr, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités en Christ. Et c'est notre encouragement dans la lutte. Et c'est notre force dans les temps difficiles. Et c'est notre victoire par la foi. Nous sommes ressuscités en Christ. Amen. Alléluia. Allez, on arrive au bout. On arrive au bout. L'étrange cas du jeune Eutyque, le chanceux, nous invite donc à expérimenter dans notre vie chrétienne normale la réalité et la puissance de la mort et de la résurrection de Christ. Ce matin, qui est tombé ? Qui est blessé? Qui a besoin d'être ramené à la vie? Qui a besoin d'être ramené à la vie? Pour qui de battre son cœur s'est arrêté? Pour qui? Ce matin, qui a besoin de la résurrection? Parce que mort dans ses péchés, dans ses fautes, dans ses approximations, dans ses peurs, dans ses angoisses. Qui a besoin de s'en saisir? Qui veut le faire? Parce que aucun de nous ne pouvons le faire pour les autres. Qui veut le faire? L'Église locale, comme Troas. L'Église locale, en lien avec le Sauveur, est là pour nous permettre de le vivre. Et ça, mes amis, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Qui veut goûter à la puissance de la résurrection et à la beauté de la vie nouvelle. Qui ? Peut-être qu'on peut reprendre tomber.
Simplement reprendre de ce qu'a dit Philippe, ramène-moi dans ta présence. Ce qu'on veut proclamer ce matin, c'est de... C'est que voilà, on aime. Comme l'a dit Philippe, on a tous désespérant besoin de lui qui nous ramène jour après jour dans sa présence. On est tous tombés, on a tous besoin d'être relevés, on n'y arrivera pas sans lui.
Ramène-moi dans ta présence, moi qui suis tombé dans mes offenses, j'ai plombé ma vie de mon péché, de ton ciel je suis détaché. Ramène-moi vers toi. Ramène-moi vers toi.
Amen. On aimerait passer un moment de prière communautaire où chacun peut élever la voix pour, c'est une parole, une prière, une prophétie, qui sait. Simplement, Philippe va passer avec vous, avec le micro, et on peut simplement passer ce moment ensemble pour, c'est une manière de faire vivre notre Église.
Seigneur, merci de tant d'amour, tant de paix. Ramène-moi dans ta présence pour apprendre à mieux te comprendre, à mieux t'aimer, Seigneur, à mieux te servir, Seigneur. Seigneur, ce matin, j'aimerais te remettre mes amis de Lignon, Larissa et Vincent et Daniel, leur maman qui est à Kiev. On n'a pas de nouvelles d'elle et Seigneur, que tu sois cet esprit de consolation, cet esprit de restauration pour eux. Que tu fasses descendre le Saint-Esprit sur eux, Seigneur. Cet amour, Seigneur, qui les entoure et qu'on puisse la retrouver, Seigneur, en vie, Seigneur, et qu'elle puisse revenir en Suisse, Seigneur. Le Seigneur, nous voulons t'adorer, confier nos vies entre tes mains et être des témoins partout où tu nous appelles, Seigneur. Et ramène-nous vers toi, Seigneur. Toi, notre Sauveur, notre Libérateur. Amen.
Oui, mon Seigneur et Dieu, c'est avec un cœur reconnaissant que je te dis que quand on est tombé encore et encore et encore, et quand on trouve, et quand tu nous prends dans les bras et tu nous amènes sur la terre ferme. Seigneur, la joie que j'ai dans mon cœur, que je tombe de moi sans moi, c'est tellement, tellement, tellement magnifique. C'est inexprimable, la joie que tu donnes, la paix que tu donnes. Seigneur, je prie pour tous mes frères et sœurs, pour qu'un jour, tous, y compris moi, nous soyons auprès du Seigneur. C'est vrai que probablement nous devons tous passer par la mort si Jésus ne vient pas, mais ce n'est pas grave. Parce que de l'autre côté, il y a notre Seigneur Jésus. Et c'est vrai qu'il est passé par la mort, par une mort terrible, par une mort injuste, parce que c'était l'homme en Dieu était en Jésus. C'était parfaitement un homme et parfaitement Dieu. Et il est mort pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés de chacun. Mais si nous allons vers lui, nous croyons vers nous croyons en lui et nous essayons avec envie de ressembler de plus en plus Jésus, il nous aide. Gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, c'est vrai, nous avons tous besoin de ta grâce, moi aussi, chaque jour. Et merci pour cette grâce qui est là et qui est disponible. Ce matin, je vais te prier tout particulièrement pour mes frères et sœurs qui ont peut-être l'impression d'avoir été trop loin, d'être tombés de trop haut, comme ce jeune homme qui est tombé du troisième étage et qui était mort. Et je crois que le Seigneur veut vous dire, il n'y a pas assez d'étages, il n'est pas possible d'être hors de portée de mon amour et de mon pardon. Et ce matin, le Seigneur vous tend sa main, il suffit de l'attraper. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu l'impression d'être tombé de trop haut. On est accablé. Et ce n'est pas le Seigneur qui nous accable, c'est l'ennemi de nos âmes. La condamnation ne vient pas de lui. Oui, il est triste, bien sûr, mais il n'attend que notre retour à la maison, comme le Fils prodigue. Alors ce matin, acceptez cette invitation et rentrez à nouveau dans sa grâce.
Seigneur, fais-nous rendre compte que nous avons désespérément besoin de toi, que nous avons besoin de changer nos vies et qu'on n'y arrivera. On n'y arrivera pas sans toi, Seigneur. On veut te demander de venir ce matin au secours de notre peu de foi, de venir changer nos cœurs de pierre en cœur de chair, Seigneur. Et je vous invite à prendre ce chant comme dernière. Une prière qu'on veut élever à Dieu, un engagement qu'on veut prendre envers lui.
Rendons cœur humble, nos bonheurs simples. échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père. Échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde de ta lumière, consacre-moi ton œuvre, Père. Chantons un psaume. Change nos vies et nos envies. Rends nos cœurs un, nos bonheurs saints. Échange mon cœur gravé de pierre contre ton nouveau cœur de chair. Éclaire ce monde.
Raconter sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. C'est les paroles du psaume 93 au verset 6. Donc, bonjour à tous. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Lauriane. Je suis la fille de Prisca et Xavier Schmitt, si peut-être ça vous dit quelque chose. La sœur de Mathieu et de Lionel. Voilà, j'ai grandi dans cette église et je suis partie il y a 6 mois à Manchester en Angleterre où je fais actuellement un programme d'une année avec une organisation chrétienne qui s'appelle Friends International. Normalement il y a des petites images qui accompagnent, mais s'il n'y a pas les images c'est pas grave, on va faire marcher votre imagination, pas de soucis. Donc je voulais juste vous partager la vision de Friends International. C'est de voir les étudiants internationaux transformés par la bonne nouvelle de l'Évangile afin qu'ils s'engagent dans la mission de l'Église dans le monde. Donc notre mission, c'est de travailler avec l'Église pour partager cette bonne nouvelle aux étudiants internationaux en parole et en action, on espère, à travers le discipulat interculturel. Donc c'est un beau défi. Et peut-être qu'après m'avoir entendu lire les paroles de ce psaume qui parle de toutes les nations, vous vous êtes demandé quel était le lien avec Manchester. Et donc j'espère que cette vision, ça vous a aidé à comprendre un petit peu. Donc on ne va pas directement, on va dire, vers les nations, mais c'est les nations qui viennent à nous. Au Royaume-Uni, chaque année, il y a 1 million d'étudiants internationaux. À Manchester, là où je suis, il y a 5 universités différentes avec un total de 100 000 étudiants. Donc c'est un petit peu plus grand que Genève. Et parmi ces étudiants, il y en a 18 000 qui viennent d'autres pays. Et donc c'est eux qu'on appelle les étudiants internationaux. À Manchester, des étudiants que je côtoie, on a beaucoup d'étudiants chinois, mais on a aussi des étudiants qui viennent d'Inde, d'Afghanistan, du Cameroun, d'Espagne, de Pologne, de Malaisie, de Hong Kong, des Émirats arabes unis, et j'en oublie probablement encore beaucoup. Donc pour rejoindre ces étudiants, on met différentes choses en place. Donc par exemple, on a un programme qui met en contact un hôte local avec des étudiants internationaux pour qu'ils puissent partager un repas ensemble ou alors qu'ils aient même une famille avec qui passer Noël. On organise des sorties et des activités pendant les week-ends. Donc quand il fait beau, c'est surtout des balades. On ne va pas appeler ça des randonnées parce que ce n'est pas les Alpes, pas même hauteur. Mais voilà, on doit aussi être créatif quand il pleut. Donc là, sur la photo, vous voyez, on avait été faire un bowling quand on a eu cette fameuse tempête. Je ne me rappelle plus le nom, mais voilà, la météo n'était pas vraiment au rendez-vous. Et puis là, j'étais avec 5 étudiantes chinoises, par exemple, et puis c'était toute la première fois qu'elle jouait au bowling. Donc on m'a demandé d'expliquer les règles. Autant vous dire que je ne savais pas vraiment comment expliquer ça. mais voilà, les principaux événements qu'on organise, c'est surtout des cafés internationaux, comme on appelle ça, où c'est un espace où les étudiants peuvent rencontrer des nouvelles personnes. On fait souvent des jeux de société. Ils peuvent aussi en apprendre plus sur la culture locale et différentes autres cultures, et puis pratiquer leur anglais. Quand on est un étudiant international, c'est très simple, je vous assure, de se sentir seul ou isolé. Donc on veut vraiment être un endroit où ils peuvent se sentir accueillis, aimés et écoutés. Et puis à la fin de nos cafés, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on propose une petite étude biblique d'à peu près une demi-heure pour les personnes qui sont intéressées. Donc par exemple, il y a récemment, on a parlé des inquiétudes. On a aussi parlé de qui est Dieu et qui sont les êtres humains selon la Bible. Donc en plus de ça, on collabore avec les églises locales et les GBU, donc les groupes bibliques universitaires. Et voilà, on invite avec plaisir les étudiants internationaux aux événements qu'ils peuvent organiser. En novembre, par exemple, il y a eu un repas de Thanksgiving qui a été organisé à l'église où je vais, avec un repas offert pour les étudiants. On a aussi été voir un concert de Noël qui avait été organisé par les GB, qui a permis aussi de voilà, partager le message de Noël, quel est le sens de Noël selon la Bible. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont assez ouverts en fait, et qui sont intéressés à participer à ce genre d'événement, mais certains, c'est plus parce qu'ils veulent découvrir la culture, en fait. Mais notre prière, c'est vraiment qu'ils rencontrent le Seigneur et qu'ils comprennent que la foi, c'est plus que quelque chose de simplement culturel. La semaine dernière, on a aussi été impliqués dans la semaine d'évangélisation des GBU. Donc, ils ont organisé des événements à midi et le soir, chaque jour, sur les campus des universités et puis dans une église. Il y avait aussi des événements prévus spécialement pour les étudiants internationaux. Aussi avec un repas offert chaque jour et puis voilà un peu un focus sur cet aspect multiculturel. On a parlé de questions comme quelle est ta perspective par rapport à la souffrance, quelle est ta perspective par rapport à la liberté ou à l'espérance, et ça nous a permis d'avoir vraiment des très bonnes discussions avec beaucoup d'étudiants. Donc évidemment c'est ça notre but ultime, on va dire, en tant qu'organisation, mais aussi en tant que chrétien, en tant qu'église, de partager la bonne nouvelle, simplement parce que voilà, parce qu'on aime les gens, on aime notre prochain et on a vraiment envie qu'ils soient sauvés. Au mois de janvier, j'ai aussi été impliquée dans l'animation d'un cours Alpha, donc c'est des cours qui permettent aux personnes qui sont intéressées de découvrir la foi, de un peu parler des grandes questions de la vie et aussi voilà du christianisme. Et en voyant l'intérêt de certains qui avaient suivi ce cours ou pas, on a décidé de commencer une étude biblique pour les débutants, comme on appelle donc les non-chrétiens. Donc ça va commencer la semaine prochaine. Donc voilà, je me réjouis vraiment de voir tout ce que Dieu va faire dans les vies à travers ce projet. Et donc ça fait partie des sujets de prière que j'aimerais partager avec vous concernant ces prochains mois. Donc le premier, ce serait vraiment que des étudiants nous rejoignent pour les études bibliques et pas seulement nous rejoignent, mais que ça puisse vraiment changer leur vie. Un autre projet, ça concerne 2 semaines d'évangélisation qui auront lieu début juillet, donc spécialement pour les étudiants internationaux, où en fait on aura ces fameux cafés tous les soirs pendant 2 semaines. Et en plus du côté un peu fun, on aura l'occasion de partager l'amour de Dieu, de parler de Jésus aux étudiants. Et puis, plus généralement, notre prière, c'est qu'on puisse continuer à partager l'évangile avec les étudiants et surtout que, voilà, qu'ils soient réceptifs et que ça les change. Comme le disait le chant, un des chants qu'on a chanté, « Éclaire ce monde de ta lumière », c'est vraiment notre prière. Et puis finalement, je voulais aussi vous partager une petite nouvelle au niveau personnel. Donc peut-être vous vous demandez pourquoi je suis là. Donc là, je suis juste ici en vacances. Donc je suis à mi-chemin de mon programme avec cette organisation cette année. Donc je finis fin août. Et après ça, j'ai été, on va dire, engagée par mon église à Manchester pour faire un stage d'une année où je vais continuer à travailler avec les étudiants internationaux au sein de l'église. Donc, continuer à faire de l'évangélisation, mais aussi accompagner les étudiants. Donc, je vais aussi être avec les étudiants britanniques. Mais aussi, voilà, mon rôle, ce sera surtout d'accueillir les étudiants internationaux, de voir aussi ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils se sentent, bien, qu'ils se sentent aussi inclus dans l'Église, etc. Je vais aussi continuer à suivre une formation biblique en parallèle et je serai encore investie dans ces cafés internationaux. Donc, je ne vais pas faire plus long pour éviter de causer des morts. Donc, je vais m'arrêter là pour les explications. Mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me parler après le culte. Je vais aussi rester pour le repas canadien. Si vous voulez avoir mes coordonnées, vous pouvez voilà, me demander. Je vais bientôt envoyer ma prochaine lettre de nouvelles. Donc, si jamais vous avez envie de les recevoir, vous pouvez me faire signe. Ou alors, vous pouvez aussi faire signe à mes frères, vu qu'ils sont là un petit peu plus souvent que moi. Donc voilà, pour finir, je voulais juste terminer avec un verset dans Apocalypse 7, au verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Donc j'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset qui montre le cœur de Dieu pour les nations et qui m'encourage vraiment à partager l'espérance qui se trouve en Jésus autour de moi. Merci.
J'aimerais juste prier pour toi. Seigneur, on te remercie pour... nous te remercions en tant qu'Église pour Lauriane parce que tu t'en sers pour ton royaume et c'est magnifique ce qu'elle fait vraiment, ce travail à Manchester avec ses étudiants internationaux. On te prie de rester avec elle comme tu l'as fait si fidèlement jusqu'à maintenant, Seigneur, de pouvoir continuer à briller à travers elle pour ces étudiants qui connaissent pas forcément qui te connaissent pas encore. Et merci pour cette richesse qu'on a de pouvoir avoir Lauriane qui rayonne là-bas. Amen.
Merci. Je voudrais juste rajouter aussi un immense merci pour toutes les personnes qui me soutiennent et qui prient pour moi. Vraiment, ça fait vraiment une immense différence. Donc voilà, merci beaucoup.
Je vous inviterai une dernière fois à vous lever. Et à chanter, à me proclamer que nous savons qu'il est là tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde avec ce dernier chant. Thank you.
Je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Éphésiens 2 au verset 4. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Il y a du carburant pour la semaine. Je vous invite à vous asseoir quelques instants pour les dernières annonces. Quelques annonces. D'abord, peut-être, j'espère, en tout cas, moi oui, vous avez apprécié Hortus, groupe ultra-local. Donc, vous avez la possibilité de vous procurer leur dernier EP, dernier CD. Il est disponible tout à l'heure à la sortie. Je vous le recommande vivement. Moi, il vient soutenir ma foi. Ça fait du bien et c'est l'album de la maturité plutôt que de l'immaturité. Donc on est très heureux du nouvel album à disposition d'Hortus. De suite après ce culte, nous avons le café, puis un repas communautaire où nous mettons en commun ce que nous avons apporté. N'hésitez pas à rester pour ce temps. On aura besoin d'un petit peu d'aide pour la mise en place des tables, des chaises et tout ça. Merci d'avance pour votre aide. Mardi 8 mars, à 18h, ici même, un temps d'échange et d'orientation avec les présidents et présidentes de culte. Si ce service vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour ce temps de formation. Vendredi 11 mars, le KT. Donc le KT, c'est le groupe qui s'adresse aux 11-15 ans. C'est ici de 17 à 19h. On est une super équipe et ça va être une super soirée. Danae, tu seras là? Alors ça va être une super soirée. Dimanche prochain, à 17h30, le spectacle de la boussole et du baluchon, ici même à 17h30. Vendredi 25 mars à 20h15, nous aurons le colloque ici même. Le samedi 23 avril, le concert avec Adonia. Et si vous pouvez accueillir des participants de la comédie musicale, merci de te lever, Rebecca. Vous pouvez vous adresser à Rebecca si vous pouvez accueillir l'un ou l'autre participant de cette comédie musicale. Les pasteurs, donc Célina et moi, nous sommes à votre disposition dès après le culte, pendant la semaine. Et je finis avec cette dernière annonce, des baptêmes le dimanche 1er mai. Plusieurs personnes ont exprimé leur intérêt, mais il y a de la place. Et puis nous aurons une petite formation prévue le samedi 19 mars en matinée, ici même. N'hésitez pas, si vous pensez au baptême, à venir m'en parler ou à Célina. Et on se réjouit d'avance de ce beau dimanche 1er mai. Très bon dimanche à vous. Restez pour le café, restez pour la gap. On a du temps ensemble. Que Dieu vous garde. Bonne semaine.